Bon matin tout le monde, nous sommes mardi le 29 juin 2021. Bienvenue en Zone Neutre, le podcast animé par moi-même, Simon Lavergne. Une présentation de l'Auberge et Club de Golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. J'en profite pour les remercier encore une fois. Merci. Et il y a quelques trucs qui s'en viennent là, qui vont être filmés directement de l'auberge. Donc, surveillez ma page YouTube pour le podcast. Plusieurs trucs qui s'en viennent, des entrevues, des trucs pas mal de fun directement sur place là-bas à l'Auberge et Club de Golf Héritage. Donc, voilà, réservez vos temps de départ là-bas, 819-522-6622, superbe track de golf. Les conditions sont incroyables, on a eu de la belle pluie en fin de semaine, ça l'a aidé, ça a fait verdir tout ça. Et si j'en juge par le gazon qui était très long chez nous, j'imagine que ça a été bénéfique aussi pour le club de golf. Donc, réservez vos temps de départ là-bas, 819-522-6622. Merci aussi à Construction Méric. Construction Méric qui m'accueille à tous les épisodes live depuis quelques temps. Donc, merci Eric et Mélanie, super généreux de votre part. Vous pouvez les encourager aussi. Hein. Vous avez des besoins en construction, 819-712-4344. Vous appelez Eric directement, Mélanie, tout ça. Ils vont pouvoir répondre à vos besoins en construction. Superbe entreprise locale ici en Outaouais. Donc, voilà. Le Canadien de Montréal hier soir, le Canadien de Montréal a découvert ou a fait renouer, fait connaissance avec le Lightning de Tampa Bay, qu'il n'avait pas affronté dans la saison du tout, donc parce que c'était pas dans la même division cette année, ayant des divisions différentes, le Canadien a affronté seulement des équipes canadiennes et n'a pas pu voir le bon vieux Lightning comme il les voyait à chaque année. Et je pense qu'ils ont peut-être eu une petite surprise hier. Quelle bonne équipe de hockey qu'est le Lightning de Tampa Bay. On se demandait où est-ce qu'ils se cachaient cette saison, n'ayant même pas remporté leur division. J'étais le premier à critiquer en disant que le Lightning a quand même 18 millions au-dessus de sa masse salariale présentement parce qu'il y a eu des blessures pendant la saison régulière. Ces joueurs-là sont de retour, ne comptaient pas sur la masse salariale pendant la saison. Et là, ils sont de retour en série, ce qui fait du Lightning de Tampa Bay une toute autre équipe, une équipe très, très difficile à jouer. Quelle rapidité a cette équipe-là? C'est incroyable. Je regardais le match hier et à un certain moment donné, là, en deuxième période, le Lightning, lorsqu'il a marqué son deuxième but, c'était à prévoir. Là. Ça bourdonnait. Les joueurs du Lightning étaient rapides. Je ne sais pas à quel point l'avantage d'être sur leur propre glace, de ne pas avoir voyagé, d'avoir été directement à Tampa Bay, préparation dans leur propre amphithéâtre, tout ça. Je ne sais pas à quel point ça a été bénéfique pour eux, mais le Lightning était prêt à commencer cette série-là, a joué comme le Lightning joue bien, là, donc a contrôlé le jeu et rapidité, les passes rapides. Bref, le Canadien était tout simplement pas de taille hier, malgré qu'il a marqué un but là, alors que c'était 2-0, puis on pouvait peut-être y croire pour la troisième période. Mais en troisième période, Kucherov en a enfilé deux, Stamkos un but en avantage numérique pour clore le débat. Victoire de 5-1 du Lightning de Tampa Bay qui prennent les devants 1-0 dans cette série-là. C'est loin d'être terminé parce que le Canadien nous a habitués de revenir et de s'ajuster. Mais hier, on voyait un petit peu le manque de vitesse, là, peut-être les vieilles jambes. Le Canadien est bâti, certes, pour les séries éliminatoires avec des joueurs comme Corey Perry, Eric Staal, des joueurs qui savent comment s'adapter dans des séries comme ça. Mais hier, c'était tout simplement trop rapide, j'ai l'impression. Le Lightning est bien huilé, les joueurs se connaissent bien, ils savent exactement où est-ce qu'ils sont positionnés sur la patinoire. Et ça, c'est une force des bonnes équipes. Donc, très intéressant, très ben, c'était pas un super match, là, on va s'entendre. Là, c'était le fun, il y avait beaucoup d'animosité. Là, c'était un match de série. Là, après le sifflet, il y avait toujours des échauffourées. On apprend à détester quelques joueurs du Lightning aussi à travers tout ça, dont Cirelli, qui est vraiment une petite peste autour du filet. Un Brendan Gallagher avec beaucoup de vitesse, peut-être moins de grit, mais quel joueur de hockey. Yannick Gourde, encore une fois, qui marque hier soir, un bon petit Québécois, comme on dit. C'est ça. Le Lightning, une bonne formation à suivre pour le restant de la série. Ça se poursuit mercredi soir à 20h, toujours du côté de Tampa Bay. Et un retour à Montréal vendredi pour le troisième match de la série. Où est-ce qu'on va voir le retour de Dominique Ducharme derrière le banc? Donc, il va avoir clairé sa sentence, 14 jours d'arrêt. Ça nous mène à vendredi, justement. Donc, il va vraisemblablement reprendre sa place derrière le banc. Et est-ce que ça va fouetter? Est-ce que ça va fouetter le Canadien? Est-ce qu'il va y avoir plus de partisans aussi? On voyait ça hier. Dans les médias, peut-être un ajout au nombre de partisans, là, jusqu'à 10 500 peut-être spectateurs au Centre Bell vendredi. Est-ce que ça va se concrétiser? Aussi bien les faire rentrer dans le Centre Bell, parce que, anyways, ils fêtent en bordure du Centre Bell, puis c'est peut-être un peu plus facile à contrôler quand on les a à l'intérieur du building plutôt qu'à l'extérieur. Donc, à suivre de ce côté-là, mais on devrait entendre la santé publique se prononcer là-dessus, soit aujourd'hui ou demain, là. Donc, à suivre. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que oui, là, on est rendu là. Peut-être par contre, s'assurer que quand on vend les billets, tout ça, on parle d'un passeport vaccinal, puis tout ça, ben pourquoi pas le tester avec le Centre Bell? Donc, oui, tu peux rentrer 10 500 personnes. Par contre, tu dois t'assurer que ces gens-là ont reçu au moins une dose, par exemple, du vaccin. Donc, si tu n'as pas de vaccin, ben, tu ne peux pas aller encourager le Canadien au Centre Bell. Fait que ce serait comme un test de voir si est-ce que c'est faisable de penser à un espèce de passeport vaccinal à long terme pour justement participer à des événements ou des trucs publics comme ça. Bref, à suivre. Deuxième match, je l'ai dit, mercredi soir. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. J'en profite ce matin, vu que il n'y a pas grand-chose à dire sur le match d'hier soir, à part que le Lightning était trop fort et que malgré le brio de Carey Price, ça n'a pas suffi. Et là, on parle toujours aussi de l'affrontement Price contre Vasilevskiy, mais Vasilevskiy, hier, n'a pas été un facteur, là. Puis j'ai l'impression que Vasilevskiy, oui, il a des grosses stats, là, il a vraiment une bonne fiche, une bonne moyenne de buts alloués. C'est tout un gardien de but, c'est vraiment un bon gardien de but. Mais j'ai pas l'impression qu'il a fait face à l'adversité comme Carey Price l'a fait dans ces séries-là. Je pense pas qu'il a eu à être le facteur dominant de son équipe pour permettre à son équipe d'en arriver à la finale de la Coupe Stanley. Et c'est pour ça que j'avais dit avant que la série commence que Carey Price pourrait remporter probablement le trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile, même dans une cause perdante. Parce que si c'est pas de Carey Price, le Canadien n'est pas là. Et malgré qu'il joue très bien en équipe, c'est quand même s'il joue très bien là, puis qu'on peut tout leur donner les éloges possibles. Si Carey Price domine pas comme il le fait, le Canadien n'est pas là. Donc, techniquement, c'est la définition même d'un joueur le plus utile à son équipe. Et c'est pour ça que je pense que, malgré le brio de Vasilevskiy, je pense que Carey Price a été le joueur le plus utile à son équipe. Quand on regarde les prouesses, par exemple, ou les performances du Lightning pour en arriver là, ben on a Braden Point, Kucherov, Stamkos en défensive, les Edman, McDonough, Savard aussi, le Québécois, qui fait une job incroyable. Quel bon joueur, quel bon défenseur défensif. Vraiment, là, ce gars-là gagne à être connu et j'ai l'impression qu'il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale un rôle super important. Un peu comme Marc-Édouard Vlasic avec les Sharks de San Jose. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que Carey Price mérite quand même le Conn Smythe, même si le Canadien l'emporte pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de joueur le plus utile avec le Lightning. C'est un tout. C'est un tout là-bas et ça vient pas rencontrer ma définition à moi de joueur le plus utile à son équipe. Le joueur le plus utile à son équipe, est-ce que Kucherov est plus utile que Stamkos ou que Point ou que Vasilevskiy ou que Edman? Je pense pas, tu sais. Fait que c'est de là que ça vient ma réflexion sur Carey Price qui, selon moi, devrait remporter le Conn Smythe, peu importe l'issue de la série. C'est sûr que ça, s'il s'en fait poter 10 dans une game, ben là, on en reparlera. Mais pour l'instant, il mérite amplement ça. Donc, je disais, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le match d'hier, même si ça fait 10 minutes que je fais ce que j'en parle, on va en profiter pour parler un peu de ce qui se passe dans les autres sports. Là, hier, c'était l'avant-dernière journée des huitièmes de finale à l'Euro. Et quelle journée de fou au foot européen. Premièrement, les pointages. On s'entend, là, les pointages de 5 à 3 et de 4 à 3. Ben, en fait, c'est 4-3 du côté de la France contre la Suisse, là, mais c'est allé en tir au but. Donc, techniquement, sur le site de l'Euro, c'est encore écrit 3-3. Donc, je ne sais pas comment eux autres ils font pour départager, mais bref. Donc, le premier match de la journée à midi hier, c'était l'Espagne contre la Croatie. Ça s'est terminé 5 à 3. 5 à 3 pour un match de soccer. C'est incroyable. Donc, ça a été 3-3 après les 90 premières minutes de jeu. Et comment ça fonctionne au soccer dans ces compétitions mondiales-là? C'est on ajoute 30 minutes de jeu. Donc, deux périodes ou deux... je sais pas, c'est des périodes. On va dire des périodes. Deux périodes de 15 minutes. Et au bout de ça, c'est pas le premier qui marque, là. C'est au bout des 30 minutes additionnelles, l'équipe qui l'emporte, l'équipe qui a compté le plus de buts l'emporte. Sinon, ça s'en va au tir au but. Donc, dans le premier match, l'Espagne contre la Croatie, c'était 3-3. Et l'Espagne, dans la prolongation, a marqué deux buts. Donc, l'a emporté 5-3. Donc, c'est un des seuls sports, ou probablement le seul sport, où est-ce que la prolongation... la prolongation peut donner un écart de plus qu'un but. Fait que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et dans le deuxième match, la France, qui était favorite, quelle surprise, menait 3-1 avec quelques minutes seulement à faire, et en deuxième demi. Et la Suisse est allée marquer pour faire 3-2 et ensuite a créé l'égalité à quelques minutes de la fin du match pour faire 3-3 et provoquer du temps supplémentaire. Dans le temps supplémentaire, les Bleus ont frappé la barre horizontale ou le poteau. En tout cas, bref, auraient pu l'emporter, mais ça ne s'est pas passé et on est allé en tir au but et... comment ça fonctionne? C'est 5 tireurs de chaque côté. Et oui, le but est immense. Et c'est souvent la chance qui va faire. Ben pas la chance, parce que les gardiens de but sont incroyables. Ils sautent comme des. Ils se pitchent d'un côté, puis ils s'étendent le plus long qu'ils peuvent pour essayer de bloquer les tirs. Donc, tu sais, c'était 4 à 4. Là, la Suisse marque. C'est 5 à 4. Et le meilleur joueur de la France, Kylian Mbappé, qui on s'attendait vraiment à ce qu'il marque, ben Tabarouette, il s'est fait bloquer son tir et la Suisse l'a emporté comme ça. Faut dire que le gardien des Suisses est un des meilleurs gardiens au monde, là, Yann Sommer. C'est vraiment une machine, là. Donc il voulait la gagner celle-là. Et tout un arrêt, bref, la Suisse qui l'emporte va affronter l'Espagne en quart de finale et c'est tout à fait invraisemblable ce qui s'est passé hier, en tout cas. 8, vous voyez, là, si on additionne, si on met un quatrième but à la Suisse, là, au tir au but, par exemple, là, on arrive à 15 buts. Il y a eu 15 buts en deux matchs au soccer hier. C'est incroyable. Aujourd'hui, on surveille beaucoup un match à midi, là, un match qui va... C'est un clash, on va se le dire. Là. C'est l'Angleterre qui va affronter l'Allemagne à midi. Et bon, malgré le fait que les Allemands ont terminé troisième de leur groupe en préliminaire, là, c'était le groupe de la mort avec la France et le Portugal, ben l'Allemagne pourrait être la seule équipe qui passe, en fait, en ayant terminé troisième de son groupe. J'y crois pas vraiment. Je pense que l'Angleterre va l'emporter, mais bref, le groupe de la mort qui combinait trois puissances mondiales, là, l'Allemagne, la France et le Portugal, bref, cet après-midi, là, vers 2h, là, les trois équipes pourraient être éliminées. Donc ça, c'est assez spécial. Donc je crois que l'Angleterre va l'emporter dans ce match-là. Et sinon, à 15h, le dernier match des huitièmes de finale oppose la Suède à l'Ukraine dans un match jaune et bleu. Voilà. Donc... C'est à peu près ça que j'ai à dire sur ce match-là. Je ne connais pas vraiment la force de la Suède, de l'Ukraine non plus. Je sais que le seul joueur que je connais suédois, c'est Zlatan Ibrahimovic, et il ne joue pas. Donc, fait que c'est ça. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là, autrement dit. Donc, après ça, à partir de là, il va y avoir des affrontements intéressants au niveau des quarts de finale. L'Italie va affronter la Belgique dans un clash complètement incroyable. Donc, la Belgique est la meilleure équipe au monde présentement et va affronter l'Italie, qui est probablement la meilleure équipe dans ce tournoi-là en ce moment. Donc, c'est l'équipe qui a le mieux performé, je dirais, à date. Et dans un deuxième match de quart, on va avoir la Suisse contre l'Espagne. Donc, ça aurait probablement dû être la France contre l'Espagne qui aurait donné tout un clash, mais la Suisse mérite d'être là. Victoire bien méritée. Et ça va donner tout un clash, là, parce que si la Suisse joue de la même manière qu'ils ont joué contre la France, ça va donner tout un match aussi. Un autre quart de finale va opposer le Danemark à la République tchèque, ce qui est probablement le plus surprenant dans tout ça, parce que, bon, je ne crois pas qu'on attendait la République tchèque et le Danemark en quart de finale. C'est des bonnes équipes, mais c'est pas des équipes qu'on voyait se rendre jusqu'à la fin, j'ai l'impression. Et, bon, l'autre quart de finale va opposer le gagnant de l'Angleterre contre l'Allemagne et de la Suède contre l'Ukraine. Donc, ça va se dérouler tout ça en fin de semaine, le 2 et le 3 juillet. Ensuite de ça, on va avoir les demi-finales qui vont se dérouler le 6 et le 7 juillet pour une finale dimanche le 11 juillet. Donc voilà pour l'Euro. C'est ce qui se passe présentement. Surprise à Wimbledon au niveau du tennis, le grec Stefanos Tsitsipas qui s'est fait montrer la sortie premier match en première ronde, puis ça c'est surprenant parce que Tsitsipas était tout feu tout flamme, une machine. Donc je vais juste aller voir pour vous dire combien ça s'est terminé. Tsitsipas pas finalement, hein, parce que... quel mauvais jeu de mots. Tsitsipas, ouais, jouait contre l'Américain Tiafo, qui est vraiment bon. Puis là, Tsitsipas, il a gagné aucun set. Ça, c'est assez incroyable. Ça s'est terminé 6-4, 6-4, 6-3. Et bref, c'est assez spécial. Sinon, un de nos Canadiens, Vacek Pospisil, a emporté 6-3, 6-3, 6-3. Donc ça, c'est du solide aussi. Sinon, dans les autres résultats, il y a Novak Djokovic qui jouait son premier tour aussi. C'est fait surprendre au premier set. Novak a perdu le premier set 4-6. Contre Draper, qui est un wild card, là, qui est un joueur invité. Et ensuite de ça, par contre, on a vu le Novak là, qu'on connaît bien, 6-1, 6-2, 6-2. Donc, il n'a pas été très, très embêté par la suite. Sinon, dans les résultats qu'on peut noter... Je regarde ça rapidement. Il y a des matchs qui sont en cours là, présentement ce matin. Ça commence quand même très tôt. Le Russe Rublev qui l'emporte sur Federico Delbonis 4-6, 6-4, 6-1, 6-2. Donc les joueurs, les bonnes têtes de série là, ne remportent pas des matchs straight. Là. Il y a quelques têtes de série qui ont perdu des sets. Aujourd'hui, Chapovalov, 10e tête de série dans ce tournoi-là, va affronter le vétéran Philippe Kohlschreiber, l'Allemand. Donc, bon match à voir. Sinon, hier, c'est ça, Andy Murray, qui est un joueur invité, donc un wild card, qui n'est pas un 2 de pique, Andy Murray, qui a battu la 24e tête de série, Basilashvili, en tout cas, qui est un super bon joueur. Là. Murray l'emporte 6-4, 6-3, 5-7 et 6-3. Donc, Andy Murray est de retour et il doit être pompé bien raide parce qu'il est chez lui à Wimbledon. Sinon, dans les autres résultats, Roberto Bautista Agut là, qui l'emporte contre John Millman, qui est un Australien, qui est un super bon joueur. Bautista Agut qui perd aussi un set, donc l'emporte 6-3, 3-6, 6-3, 7-6. Et je crois que c'est tout. C'est l'entrée en scène de Roger Federer ce matin, cet avant-midi, donc à suivre. Il affronte le Français Maran. Attends, j'ai de la misère avec les noms. J'ai de la misère avec les noms un matin. Je vais vous dire ça. Dans le Manarino. Manarino. Bon. Manarino, c'est ça. Donc, Federer qui est sixième tête de série et Federer qui n'a pas joué, donc qui serait probablement pas dans les têtes de série ou presque, là, mais à Wimbledon, on prend en considération que c'est une machine sur le gazon aussi. C'est quand même fait sortir son tournoi de préparation sur gazon par le Québécois, justement, Félix Auger-Aliassim. Donc, il n'est pas imbattable sur gazon, Federer. Il a déjà perdu des matchs, tout ça. Il est peut-être pas à son apogée non plus. Là. Il est peut-être pas dans sa plus grande forme. Il n'a pas disputé beaucoup de tournois. Par contre, voir Roger Federer jouer sur le gazon, ben c'est toujours super intéressant. Donc, il donne toujours un bon show, sert très bien, etc. Donc, voilà. Je voulais parler de basket aussi parce que là, on est dans les playoffs au basket et j'en parle pas nécessairement très souvent. Et je vais juste donner un petit compte rendu là, où est-ce qu'on en est avec les séries. Juste une petite minute. J'ai ça ici. Basketball. Donc, présentement, on a les Clippers de Los Angeles qui affrontent le Suns de Phoenix. Le Suns l'ont emporté hier soir. Non, les Clippers l'ont emporté 116-102 hier. Et les Suns pouvaient les éliminer hier soir. Ça s'est pas passé. Victoire des Clippers. La série est maintenant 3-2 pour les Suns. Et dans l'autre série demi-finale, on a les Milwaukee Bucks contre les Hawks d'Atlanta. Les Bucks l'ont emporté dimanche soir 113-102 pour prendre l'avance 2-1 dans la série. Et c'est ça. Donc, à suivre, moi je pense qu'on va voir les Bucks affronter les Suns en finale et à suivre parce que ça se poursuit ce soir, justement, les Bucks qui affrontent les Hawks à 20h30. Donc, à suivre de ce côté-là. Sinon, les Blue Jays reprennent du service ce soir. Envoie sur la butte Ray pour le premier match contre les Mariners de Seattle. Les Blue Jays l'ont emporté en 7 victoires à leurs 8 derniers matchs. Ça va être très intéressant de suivre ça. Donc, les Mariners contre les Jays ce soir, ça se déroule à Buffalo, 19h07. Est-ce que les Blue Jays vont jouer à Toronto d'ici la fin de la saison? C'est une bonne question. On commence à voir des événements. On voit le Canadien qui pourrait accueillir plus de 10 000 personnes. Est-ce que c'est pensable que les Jays puissent faire la même chose? Donc, on va voir. Je crois que l'Ontario va annoncer son plan de déconfinement ou peut-être des nouvelles mesures ou de l'ouverture là, à compter de vendredi le 2 juillet. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais selon le site des Blue Jays, il y avait déjà des billets en vente à partir du 16 juillet. Donc, est-ce que ça pourrait être aussitôt que le 16 juillet? J'en doute fortement. Là. J'ai plus l'impression que si ça arrive, ça va être au mois d'août. Et on verra par la suite pour avoir peut-être traité les Blue Jays en série, mettons, là, au Rogers Center plutôt qu'à Buffalo. Donc, à suivre de ce côté-là. Ça se fait pour la Ligue nationale de hockey. Pourquoi ça se ferait pas pour la MLB? Je veux dire, on accueille des équipes. On va accueillir une équipe américaine. On a accueilli Vegas du côté de Montréal. Donc, pourquoi on pourrait pas accueillir les équipes de la MLB? Surtout que, je le disais dans le podcast avec Charles-Alexis de Passion MLB, je disais que on a vraiment une facilité du côté de Toronto et du Rogers Center parce que l'aéroport est quasiment pas très loin du Rogers Center et il y a un hôtel à même le complexe. Donc, à même le Rogers Center, il y a un hôtel où est-ce que les joueurs sont logés habituellement. Donc, à partir de là, je veux dire, ils sont quasiment en quarantaine pour jouer au baseball. Ça peut marcher, là, tu sais. Je veux dire, tu les prends à l'aéroport, tu les amènes à l'hôtel, ils sont direct à côté du terrain, puis tu leur défends de bouger de là le temps de la série. Ils sont trois jours sur place à cet hôtel-là, pratique au Rogers Center à côté. Donc, techniquement, ça se fait très bien, d'après moi, là, tu sais. À surveiller dans le baseball majeur ce soir, donc affrontement entre les Rays de Tampa Bay et les Nationals de Washington, les Rays qui sont en tête de la division Est de l'Américaine. Les Red Sox affrontent les Royals. Ensuite de ça, Qu'est-ce qu'on a comme match intéressant? On a. J'essaie de voir qu'est-ce qui. Oh, les Giants contre les Dodgers. Ça, c'est à 22h10. Gausman pour les Giants contre Buehler. Deux lanceurs avec des fiches incroyables. Gausman est à 8 victoires, 1 défaite. Moyenne de points mérités à 1.49, ce qui est incroyable. Et Walker Buehler, qui est à 7 victoires, 1 défaite. Moyenne de points mérités de 2.51. Ça va être un duel de lanceurs fantastique. Donc, ceux qui veulent se coucher tard la soir, le 22h10, les Giants contre les Dodgers. Et cette série-là, c'est du bonbon. Là. Les Giants qui sont en tête de cette division-là jouent du gros baseball et on attendait les Dodgers et les Padres, puis c'est les Giants qui sont là. C'est fantastique. C'est une course à trois, hein? Une course à trois pour paraphraser mon ami Pascal Harvey de Passion MLB, mais on a vraiment une course à trois dans cette division-là. Et écoutez, c'est des matchs incroyables toujours. Padres contre les Dodgers contre les Giants contre les Padres. Donc, à suivre, mais super intéressant de ce côté-là. All right, ben c'est tout pour ce matin. Format audio seulement ce matin. Je voulais pas tout mettre la vidéo et tout ça, puis j'étais occupé. Donc, voilà, c'est du audio seulement. J'espère que vous appréciez. Partagez le podcast si vous aimez ça. Partagez-le en grand nombre. C'est disponible là, en audio sur Balado Québec, sur Google Podcast, sur Spotify et habituellement en vidéo aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube En Zone Neutre Podcast. Donc, gênez-vous pas, partagez en grand nombre. J'adore faire ça, ce petit podcast-là, mais je veux savoir que le monde écoute aussi. Donc, gênez-vous pas, m'envoyer des commentaires aussi si vous voulez que je couvre des trucs en particulier. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao!